Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Voici dans la deuxième partie du magazine Okapi Service avec comme thème quels sont les défis liés à la moralisation de la fonction publique ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons Madame Andeka Madeleine, elle est activiste des droits des femmes. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, Madame Madeleine.
Bonjour.
Et deuxième invité, c'est Monsieur Ernest Mparero. Il intervient au téléphone. Il est le président de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Monsieur Ernest, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Monsieur le journaliste.
Chers auditeurs, auditrices, si ces sujets vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, questions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple le commentaire de Félicien Chibangou qui nous a écrit depuis la ville de Mbujimayi. Il dit que si la fonction publique, il veut savoir en fait si la fonction publique est réellement est politisée ou apolitique, parce que en RDC la fonction publique a tendance à ne recruter que des personnes qui appartiennent à des qui ont des relations avec des autorités qui travaillent dans l'administration publique. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutokie est à la réalisation de ces numéros. Debs Vita s'occupe de la prise de son. Et Meshak Moutamoutou est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quels sont les défis liés à la moralisation de la fonction publique en République démocratique du Congo? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ces sujets vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct. Partagez vos témoignages au numéro 099-706-9941. La moralisation de la fonction publique en RDC est confrontée à une série des défis structurels, culturels et politiques qui affectent son efficacité et sa crédibilité selon plusieurs observateurs. La fonction publique est fortement politisée avec des recrutements souvent basé sur les militantismes ou les affinités publiques, plutôt que sur la méritocratie, et cela crée un environnement où la loyauté politique prime sur les compétences, affaiblissant ainsi la neutralité et les rendements de l'administration selon nos sources. Alors, que faut-il faire pour moraliser vraiment la fonction publique et l'administration publique ici en RDC? Nous débattons ces deux thèmes avec nos deux invités. Nous avons ici au studio Madame Andeka Madeleine. Nous rappelons qu'elle est activiste des droits des femmes. Et également, deuxième invité, c'est Monsieur Ernest Mparero, qui est président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Madame Madeleine, vous partagez avec nous ces constats qui est fait par plusieurs observateurs dans l'administration publique.
Merci beaucoup pour la parole. C'est vrai, je partage
avec le commun mortel, ce constat qui est fait, la tendance est de remarquer que la fonction publique est pris dans un étau d'instrumentalisation, de corruption et beaucoup d'autres tares, et qu'on ne retrouve plus la vraie fonction publique qu'on devrait avoir.
Monsieur Ernest Parero, nous rappelons que vous êtes le président de la LICOCO. Vous partagez le même constat que nous venons d'évoquer à l'entame de ces rendez-vous.
Oui, oui, effectivement, c'est le même constat que je partage aussi. J'étais d'abord à saluer Madame Andeka qui est avec vous dans le studio. Et je salue aussi tous les auditeurs de Radio Okapi. Effectivement, comme vous le savez, la fonction publique est devenue n'est plus une institution objective, une institution indépendante et qui doit rendre service aux citoyens. Pourquoi? Parce que le constat qui a été fait est réel et c'est ce que les gens vivent au quotidien. Si vous partez par exemple dans un bureau de la commune, comment on recrute? Demandez au bourgmestre, est-ce qu'il a lancé déjà des appels à recrutement? Si les 5 dernières années, on n'en trouvera même pas. Si vous regardez, vous partez dans plusieurs ministères, comment on recrute les gens? Il n'y a jamais eu appel à recrutement sur place. Donc on constate, si vous partez même, et d'ailleurs je commence à saluer les initiatives du ministre de l'Éducation qui commence à recruter les enseignants par concours, ce qui est une bonne initiative. Et si tous les autres ministères pouvaient suivre cela, peut-être que ça nous pourrions avoir des fonctionnaires qui sont indépendants, objectifs, et qui pourraient effectivement être intègres. Mais sans cela, effectivement, nous subissons ce que nous avons, et c'est ça la réalité des terrains.
En même temps aussi, Madame Madeleine, ce que l'on constate est que la fonction publique engage des agents, et ce sont des agents qui attendent des années pour être mécanisés. Il y a même des gens qui ont dépassé 45 ans, qui n'ont jamais été mécanisés. Ils ont eu à travailler pendant plus de 10-15 ans sans avoir un numéro matricule et sans être payés. Et c'est ce qui fragilise également l'administration publique en RDC.
Ça confirme ce que nous venions de dire. L'état, permettez-moi les termes, l'état délétère de notre fonction publique. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années, des décennies qu'on ne fait pas attention à ce qu'on appelle la fonction publique. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur les basiques. Qu'est-ce qu'on entend par responsabilité ou fonction publique? Ce sont les obligations et les devoirs qu'une personne ou une institution assume dans l'exercice de ses fonctions au service de l'État ou de la collectivité. Seulement, l'appréhension que nous avons, les gens, même ceux qui vont chercher du travail à la fonction publique, même ceux qui sont recrutés de manière formelle, l'idée de servir l'État ou de servir la nation, communauté, ce n'est pas ça prioritaire dans leur tête. Ce n'est pas ancré dans la tête que quand je vais avoir des responsabilités au niveau de la fonction publique ou service au niveau des institutions publiques, la première des choses, c'est de servir la nation, c'est de servir la communauté. Quand on n'a pas ça dans la tête, eh bien, on a toutes les conséquences qui s'en suivent. L'intérêt général n'est pas la priorité d'un fonctionnaire, n'est pas la priorité de nos autorités. Parce que quand on y va avec l'idée que j'ai un travail, que je vais gagner ma vie, c'est bien, mais on gagne sa vie après avoir servi. Donc là, si cette notion de service n'est pas ancrée, on ne se l'approprie pas, et cette démarche, on va continuer dans l'état. Donc il faut qu'on redéfinisse les bases. On va avoir des responsabilités publiques. Pourquoi? Pour servir. Ça, c'est
le premier objectif.
Pour servir l'État, pour servir
la nation,
rendre service à la communauté. Alors, si cette démarche-là n'est pas ancrée, nous aurons ce problème des générations encore. Et le servir l'intérêt général, le bien commun, parce que quand on va à la fonction publique, on va dans les responsabilités publiques, les gens n'y vont pas pour s'assurer que je gère le bien commun, à quelque niveau que ce soit. Mon collègue Ernest venait de parler, allez à la commune. Prenons un exemple. Le bourgmestre qui fait des mariages. Où comptabilise-t-on tout ce que
l'argent généré par
demande. Qui les comptabilise? Quel est le reçu qu'on donne quand on donne? Parce que moi, je suppose que quand on demande 5 chaises pour chaque mariage, on ne devrait pas manquer des chaises dans les salles des
salles d'attente
partout. On ne devrait pas manquer.
Oui.
Si c'est pour financer indirectement ça, ok. Mais qui comptabilise où va ces chaises? C'est-à-dire, même ceux qui nous gouvernent ne savent pas gérer le bien commun.
Monsieur Ernest Parero, nous rappelons que vous êtes président de la LICOCO. C'est la dimension éthique qui est vraiment altérée au sein de l'administration publique, des agents de l'administration publique. C'est ce que nous constatons de plus en plus malgré les réformes qui sont en cours d'exécution.
Effectivement. Pourquoi? Parce que tout cela commence d'abord par les partis politiques qui arrivent au pouvoir. Comment est-ce que ces partis politiques arrivent au pouvoir? En faisant une petite analyse, il y a la loi sur les partis politiques. Mais qui doit appliquer cette loi sur les partis politiques? C'est d'abord le ministère de l'Intérieur et le secrétariat général en charge des partis politiques. Mais qu'est-ce qu'on constate? On dit par exemple, un parti politique doit publier les rapports financiers. Est-ce qu'on en a?
Non.
Vous pouvez demander sur 100 partis politiques que nous avions vus aux élections, jusqu'aujourd'hui, aucun parti politique n'a publié ses rapports financiers. Or, la loi l'exige. Au sein des partis politiques, déjà, comment est-ce qu'on recrute les cadres? Vous constaterez qu'au sein même des partis politiques, les cadres sont recrutés par affiliation. C'est l'enfant du leader du parti, c'est l'enfant de l'autorité morale, c'est les cousins, c'est les petits frères. C'est comme ça que ça commence déjà. Alors, une fois ce leader, cette autorité morale arrive au pouvoir, il va continuer avec les mêmes pratiques de ne pas recruter par appel d'offres, par concours.
Et je précise qu'ils ont couramment l'habitude de dire dans des permanences des partis politiques, j'attends mon affectation. Donc il est là, il attend, sans passer au concours, et puis il attend l'affectation, il va recevoir les coups de fil, et puis on lui dit, va travailler dans tel ministère ou va travailler dans telle administration.
Textuellement. Alors, dès que au sein même des partis politiques, il n'y a pas ce mécanisme de recrutement par concours, il n'y a pas de formation, dans les partis politiques, combien de partis forment les membres pour tel secteur ou tel secteur, il n'y en a pas. Ce qui a comme conséquence, lorsque le parti arrive au pouvoir, nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas éthiques, nous avons des fonctionnaires qui ne respectent même pas les lois, qui ne respectent même pas les critères, parce qu'au sein de l'administration publique, il y a quand même des critères. Mais ces critères-là ne sont pas respectés. On engage comme on veut, et conséquence, nous avons des gens qui ne sont pas expérimentés, nous avons des gens qui sont en conflit avec l'éthique, et nous avons des gens qui sont les plus corrompus possibles. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ces gens-là? C'est une administration, effectivement, de fait, mais c'est une administration qui ne rend pas service aux citoyens.
Je vous garde en ligne, Monsieur Ernest Parero, Madame, dans cette émission, nous donnons également la parole aux auditeurs, donc on va quitter le studio pour aller au standard et puis nous allons retourner ici au studio pour continuer notre entretien. Quels sont les défis liés à la moralisation des agents de la fonction publique? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier intervenant prend la parole depuis la ville de Kisangani. Blaise Saïdi, bonjour et bienvenue.
Bonjour, cher Jordi. Bonjour aux auditeurs et auditeurs de la radio Kapi. Cher Tassi, ça c'est un sujet trop pertinent, vu que ce sont les mots qui rongent dans la fonction publique. Au regard de cette thématique, ce sont les défis de la moralisation dans la fonction publique. En voyant cette thématique, vous verrez que donc, on ressort l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Cher Tati, le statut agents publics de l'État en RDC en lien avec la moralisation avaient déjà tout planifié. Il se fait mal que nous avons les textes ne sont pas appliqués. Il y a le décret loi numéro 017/2022. On a un code de conduite pour les agents publics de l'État définissant la compétence professionnelle et l'éthique professionnelle comme les piliers de l'intégrité et de la performance. Il y a toujours là des codes qui imposent au comportement clair. L'agent doit se comporter en privé comme en public et de manière à renforcer la confiance publique. Je reviens encore ici au regard de ces thématiques. Moralisation dans la fonction publique. C'est mettre en place des pratiques, des règles et des cultures de travail qui garantissent les agents publics qui doivent accomplir leur mission avec intégrité, responsabilité et transparence. Cher Tati, aujourd'hui, il y a assez de moyens qui s'envolent au niveau de la fonction publique. Dans la fonction publique, c'est moins de personnes qui travaillent. Il y a les gens qui restent à la maison et ils attendent que le temps pour lorsqu'il y a la banque qui informe déjà les agents de passer pour prendre le salaire, ça se calque donc les gens. Vraiment, il y a un problème. Aussi, cher Tati, il y a les dysfonctionnements dans la fonction publique. Dans la fonction publique, les enseignants de l'éducation nationale n'ont pas le numéro matricule de la fonction publique. Ils jouissent uniquement des numéros de l'identification de la COPI. Aujourd'hui, s'il y a un enseignant qui est décédé, moins de 6 mois, le nom est effacé carrément. Et au niveau de la fonction publique, même si une personne était décédée il y a une décennie, que la famille de la personne continue à toucher cet agent. Pendant que il y a d'autres agents là-bas qui continuent à...
Qui ne sont pas mécanisés, qui attendent d'être mécanisés.
Oui.
Est-ce que vous avez des questions particulières, Monsieur Blaise? Oui. Vous avez évoqué un chapelet de problèmes. Vous avez une question particulière à poser à nos invités?
Oui, nous avons une question.
Allez-y rapidement.
Comment motiver les fonctionnaires à rester l'éthique malgré des salaires faibles? C'est la première question. La deuxième question, quelle stratégie permettrait de protéger les agents dans la fonction publique et concurrence? Et pour citer, quel mécanisme de contrôle pourrait être mis en place pour surveiller l'arté des agents de la fonction publique? Je me limite à cette voie-là, puisque les gens qui sont là, les invités ne sont pas de la fonction publique. Il n'y a pas moyen d'aller juste à des questions de dysfonctionnement dans la fonction publique à ce concernant les agents de la fonction publique et de l'éducation nationale. Je me limite à cette voie-là pour laisser la place à d'autres personnes.
Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Excellente journée au niveau de la ville de Kisangani. Monsieur Blaise Saïdi, on retourne ici à Kinshasa afin de donner la parole. Hein. On donne la parole cette fois-ci à Trésor Mulumba Wakabeya, à qui nous disons bonjour. Monsieur Trésor,
bonjour,
vous m'entendez?
Bonjour la radio Kati.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour la radio Kati.
On vous donne la parole, Monsieur Trésor.
Oui, merci beaucoup. J'ai la parole sur m'aborder. La moralité dans la fonction publique en RDC reste un défi pour le développement de ce pays. Imaginez un agent de l'État qui se présente à 18h devant notre cyber, seul, sans ordre d'émission, sans quoi, qui réclame l'argent à 18h pendant que les bureaux de l'État sont déjà fermés. Imaginez ça.
Ça, c'est un témoignage patent, M. Trésor. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, c'est un témoignage.
Vous avez une question ou des questions particulières à poser par rapport à la thématique ou des suggestions à avancer?
Non, je n'ai pas de questions, mais je suis en train de vous suivre en ligne. S'il y a des questions, je vais vous rappeler.
Merci beaucoup. Excellente journée, M. Trésor Wamulumba. Monsieur Ernest, comment répondez-vous à Blaise, Blaise qui a pris la parole depuis Kisangani, qui a décrié les dysfonctionnements qui existent au sein de la fonction publique à cause de ces manques de l'éthique et de la moralisation dans l'admin public? Monsieur Ernest, on va essayer de relancer Monsieur Ernest qui la liaison oui s'est dégradée et puis donc on va essayer de le relancer. Madame Madeleine, comment répondez-vous au constat au fait que nous a partagé l'auditeur de Kisangani, Blaise Saïdi?
Il a totalement raison et moi je l'ai dit que le dysfonctionnement ne date pas d'aujourd'hui. Tout cet art que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Mais cela ne nous donne pas de raisons pour ne pas y travailler ou bien en parler pour échanger et trouver des solutions, ainsi proposer à nos autorités comment sortir de ce gouffre. Je sais qu'au niveau de la fonction publique, il y a des réformes qui sont en train de se faire, surtout en termes de... d'avoir un état des lieux sur les fonctionnaires.
Oui, mais ça reste sur documents, sur des réformes documentaires en pratique. Ces réformes ne sont pas opérationnalisées. C'est ça le problème, madame.
C'est ce que je suis en train de dire. Je sais que les réformes sont en train de se faire. Mais de quelle manière? Quels sont les résultats que nous avons? Même des résultats à mi-parcours. Mmh. Quels sont les résultats pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas? Mais aussi, le problème de l'éthique... ce n'est pas en étant fonctionnaire que l'on a des valeurs. La loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État en République démocratique du Congo, la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, dans son article 65, la loi stipule que tout candidat à un emploi dans la fonction publique doit justifier d'une bonne moralité dans sa vie publique que privée. Donc, ce n'est pas dans la vie publique seulement qu'on exige la moralité. Ça doit commencer dans sa vie privée. Donc, nous avons là un problème que les Kinois pourraient dire « Singama Tembele ». Ça vient de loin. Ça vient de l'éducation. De l'éducation de part là où on mène sa vie privée. Et vous allez distinguer les agents qui ont des bases éducationnelles solides ou appréciables se distingueront à la fonction publique.
Exactement.
Bon, si on constate ce problème d'éducation, il faut aussi, en termes, en dehors des compétences, par des concours, on recrute les compétences, mais il faut aussi vérifier la moralité. Dans cette même loi, l'exigence est attesté par le certificat de bonne vie et mœurs. Mais comment est-ce qu'on va acquérir le certificat de bonne vie et mœurs?
Vous savez. Il ne suffit pas d'aller demander et puis vous payez de l'argent, on vous donne les documents.
L'État ne fait pas son rôle d'enquêter. L'État ne fait pas.
Sur la moralité de l'agent.
Le problème est très très profond. Les réformes doivent être intégrées. C'est-à-dire, on a des réformes partout, mais on a une coordination pour vérifier. Parce que si on n'a pas des agents et les gestionnaires des institutions qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas d'éducation, qu'allons-nous espérer? Parce que le monsieur vient de donner un exemple. Il y a des agents qui ne viennent pas. Il y a des agents qui ne viennent pas. Alors, l'État est en train de payer quelqu'un qui n'a pas rendu service. L'État est en train de perdre de l'argent. Donc, mais ces agents-là trouvent que c'est leur droit, qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, on doit les payer. Par contre, ils n'ont pas travaillé. C'est comme ça que j'ai dit au départ. Quand on va servir, quand on va chercher de l'emploi au niveau des institutions publiques, on y va pour servir l'État. Si cette notion-là est détournée dans sa tête, je pense que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est justifié. Un agent qui ne travaille pas, qui va à la fin du mois, qui demande son argent. C'est justifié parce que cette idée-là de servir n'est pas dans son chef. Il ne sait pas. Et c'est comme ça, des générations vivent. Il y a des générations qui n'ont pas eu des modèles. Mm. Dans l'administration publique, nous devrions avoir des modèles.
Oui, mais en même temps aussi, l'auditeur de Kisangani, il a évoqué la dimension, il faut valoriser aussi l'agent de l'administration publique. Voilà. Parce que s'il est sous-payé ou il n'est pas payé pendant 5-6 ans en attendant la mécanisation, on va tomber dans ce que le deuxième auditeur a évoqué.
Je veux vous donner un exemple. Mm. Nous avions un roulage... du côté de Marsavco, là-bas. Vous le connaissez?
Oui. C'était un policier. Il est cité en modèle par beaucoup de
clients. Est-ce que lui avait un salaire plus que les autres?
Non.
Mais pourquoi il est cité en modèle?
Parce qu'il se respecte, il respecte son travail.
Il respecte son travail, il rend service.
Exactement.
Et je pense que ce qu'il a gagné en étant un modèle serait plus que son salaire. Parce que les gens ne savent pas que, en étant modèle, on gagne plus que le salaire. Je ne dis pas que le salaire n'est pas nécessaire. Non. Je n'ai pas dit ça. C'est un droit. Mm. Mais un droit en échange du service rendu. Et le service doit être rendu avec éthique, avec moralité. C'est ça le modèle. Ce monsieur-là est un modèle. Il a eu des prix. Il a eu à être envoyé en vacances aux États-Unis. Est-ce qu'avec son salaire, il aurait pu avoir ça?
Non.
C'est un modèle. Les gens lui donnent carrément de l'argent. Non.
De bon cœur.
De bon cœur. Mm. Donc, l'éthique paye aussi. L'éthique paye beaucoup d'ailleurs. Parce que si vous êtes un modèle, votre nom sera gravé dans l'histoire de votre institution. Les gens se référeront à votre nom. C'est resté pour la vie, pour l'éternité. Vos enfants, on vous dira papa Nabino Awa, Azala Kiboui. Donc, il faut arrêter. Je sais que nous tous là, nous avons besoin qu'on puisse améliorer nos salaires. Nous tous. Mais cela ne nous donne pas raison pour que nous ne puissions pas
tomber dans des
travailler, pour que nous ne puissions tomber dans des abus. Cela démontre que dans la vie privée, il y a quelque chose qui a manqué. Mmh.
Avant de donner la parole, Madame Madeleine, avant de donner la parole à Éminent Mwanda qui nous appelle de Bukavu, je me tourne vers vous, Monsieur Ernest Mparero. Nous rappelons que vous êtes président de la LICOCO. Comment réagissez-vous aux suggestions de l'auditeur de Kisangani qui a décrié les dysfonctionnements qui existent dans l'administration publique à cause du manque de l'éthique et de la déontologie professionnelle, alors qu'il y a des textes, des documents qui définissent les termes du respect des normes éthiques et déontologiques au sein de l'administration publique?
Oui, effectivement, comme je l'avais dit, vous m'écoutez?
Oui, nous vous recevons, allez-y.
Ok, comme je l'avais dit, premièrement, c'est le fait qu'on ne respecte même pas les textes qui créent la fonction publique. Le premier problème, c'est comment on recrute ces agents-là. Il y a des critères pour les critères, c'est que Madame Andek a dit, il y a des critères qui sont établis, mais les hommes politiques qui recrutent ne les respectent pas. Et pourquoi ils ne les respectent pas? C'est parce que eux-mêmes les hommes politiques, ils recrutent de façon, ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas intègres, ils ne sont pas démocrates et ils ne sont pas transparents. Les hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Alors, des hommes politiques pareils, ils arrivent au pouvoir, pour maintenant commencer à recruter à la fonction publique, ils ne pourront jamais respecter la transparence, ils ne pourront jamais respecter l'éthique ou l'intégrité, et ils ne pourront jamais respecter la lutte contre la corruption. Et c'est ça les conséquences même de tout ce que l'auditeur de Kisangani est en train de déplorer. Deuxième aspect, c'est les salaires des agents de l'État. Comment est-ce que l'État mobilise l'argent? Lorsque les agents de l'État eux-mêmes s'adonnent au détournement de fonds, ça prive à l'État l'argent pour leur payer très bien.
Exactement.
Parce que c'est comme un cercle vicieux. Mm. C'est comme un cercle vicieux. Les fonctionnaires détournent, l'État n'a pas d'argent, il le paye mal. Mais si les fonctionnaires pouvaient se dire, écoutez, prenons un mois seulement, on ne détourne pas. Vous voyez combien d'argent la RDC peut mobiliser? C'est des milliards et des milliards.
Tout à fait.
Et à ce moment-là, lorsque l'État mobilise l'argent, les fonctionnaires, à travers les syndicats, ils peuvent maintenant demander à ce qu'on augmente leur salaire, on augmente leurs conditions, on améliore leurs conditions de travail. Mmh, mmh. Effectivement. Vous voyez, dans plusieurs ministères, lorsque vous arrivez, il n'y a même pas de bureau. Il y a des agents de l'État qui
qui n'entre même pas. Ils entrent seulement pour signer, mais ils sont dehors.
L'équipe avant est dehors là, et puis le soir, ils rentrent.
Effectivement, ils sont dehors en train de discuter politique. Or, un fonctionnaire, c'est lié à politique. Or, le fait qu'on ne respecte pas les critères, on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les procédures, nous tombons toujours dans le manque d'éthique et le manque d'intégrité. Et c'est ça la cause primordiale même de tout ce que nous déplorons aujourd'hui. C'est l'homme politique que nous avons qui ne respecte pas les textes, et le fait qu'il recrute par acquittance, par favoritisme, par ethnisme, par tribalisme, ça nous attrape. Aujourd'hui, nous avons des agents de l'État qui ne connaissent même pas. Lorsque vous leur dites, écoutez, voici la loi qui crée, ils se disent la loi. Ils n'ont jamais même pas, ils n'ont jamais lu. Il y a des arrêtés qui ne savent même pas interpréter. Donc, nous avons de grands problèmes et ça mérite à ce que les hommes politiques, nous puissions les former et eux-mêmes forment aussi leurs adhérents, leurs membres, afin de les affecter au niveau de la fonction publique.
On vous garde en ligne, donc c'est important, Madame Andeka, de vulgariser au fait les textes sur les codes et la déontologie professionnelle auprès de ces agents également, parce que il y a de ceux-là qui ne connaissent même pas les clauses de ces codes d'éthique et déontologie professionnelle.
Merci beaucoup. Au niveau de la fonction publique, je crois qu'il y a une structure qu'on appelle OCEP,
oui,
qui est chargée de ça. Mais je ne sais pas si OCEP fait son travail parce qu'on l'entend pas.
De moins en moins. Mais est-ce que aussi OCEP a aussi les moyens
pour... C'est voilà, ça que je voulais dire. Il faut donner à chaque institution les moyens de sa politique pour qu'il puisse faire un travail. Mais aussi, dans les principes de la bonne gouvernance, il y a un principe pour tout le monde, la primauté du droit. Nous devons tous être soumis aux lois.
Et nul n'est censé ignorer la loi, dit-on.
Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand vous signez un contrat avec l'État congolais, je suppose qu'on vous donne le statut d'un agent public de l'État et que vous vous y conformez. Mais aujourd'hui, dans notre pays, les lois sont peut-être là pour satisfaire le niveau international, pour dire que nous avons des lois dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Mais en réalité, personne ne fait cas de la loi. Et c'est ça aussi le grand problème. La Constitution nous gère. Les lois doivent nous gérer. Chaque domaine a ses lois. Là où il y a un impasse, on fait tout pour avoir une loi. C'est pour codifier, c'est pour gérer,
normaliser la vie en communauté.
La vie en communauté, c'est pour aider les gens qui sont appelés à travailler, à rendre service à la communauté.
Exactement.
De respecter les règles pour que nous ayons des résultats. Parce qu'à quoi sert d'avoir beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées? À quoi sert-il? Mais aussi, il y a un problème. Il y a un grand problème. La sanction, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un grand problème. Vous allez voir au niveau des administrations publiques, il y a des gens qui ont fait des fautes graves. Mais quand on sanctionne, c'est du chantage pour l'autorité, c'est du chantage.
C'est de la pression sur lui.
C'est de la... Mais pourtant, c'est vérifié que la personne a fait une faute grave. Et nous sommes dans un fourre-tout où je ne sais pas si la sanction ne s'applique pas. Chacun va continuer. La sanction à tous les niveaux. Je n'exclus personne. Si le modèle ne vient pas par la sanction, il est peu probable que nous puissions avoir des résultats
les choses, ouais,
avec les réformes que nous sommes en train de faire.
Nous allons retourner au standard, madame, pour donner la parole à la deuxième vague des auditeurs qui appellent de partout à travers la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par vous, éminent. Vous nous appelez depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là au sud Kivu. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour, monsieur Tati. Bonjour à nos deux invités. Bonjour aussi à toute l'équipe qui nous accompagne, particulièrement monsieur Grace Mbunzoli. Je sais très bien que le sujet est d'actualité. Le défi majeur de la moralisation de la fonction publique en République démocratique du Congo sont multiples. Je commence par la politisation excessive. Le recrutement fondé sur l'appartenance politique au lieu de mérite. Deuxième défi, il y a la corruption systématique. Paiement de pots de vin pour accéder à un poste. Nous avions concouru à des postes dans l'administration publique, mais actuellement, nous n'avons pas eu la chance d'y accéder. Monsieur Marcel, monsieur Tati, je vous dis, il y a un concours, l'ENA qui a lancé même un concours ici. Mm. Il faut savoir comment, dans quelle mesure, comment ce concours-là est en train d'être déroulé. Ça se fait sur base des affinités, et ce qu'on est en train de faire actuellement comme examen, ce n'est qu'une complémentarité. Rien ne se fait dans la transparence, et on espère, parce que je crois qu'avec l'avènement du nouveau gouvernement, l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, ici à Bukavu, on avait même lancé une offre pour recruter les gens à la DCDA. Mais si, il fallait voir comment les gens s'étaient mobilisés pour aller postuler là-bas. Mmh. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'on a mis les dossiers.
Qui est-ce qu'on a appelé, qui est-ce qu'on n'a pas appelé?
En tout cas, alors, avec ça, aujourd'hui, nous voyons même comment les riz sont en train de gonfler avec les manifestations d'ici et là. Parce que quand il y a nomination, vous avez vu la nomination du nouveau gouvernement, mmh. Et les gens commencent à dire que nous ne sommes pas retrouvés. Donc ça se fait comme un partage de gâteaux sur la table, et ceux-là qui se sont trouvés écartés, ils doivent commencer à revendiquer. Aujourd'hui, les gens de l'UDPS sont en train de crier disant qu'ils ne se sont pas retrouvés, comme si c'est un bien privé qui devrait aussi se partager. Il y a aussi l'absence de mécanismes de contrôle efficaces. Faiblesse des organes de contrôle, il n'y a pas des organes de contrôle pour voir si réellement ce qu'on est en train de faire, on respecte la déontologie comme les invités sont en train de le dire. On respecte les normes dans l'administration publique, il n'y a pas de contrôle. On le fait, on dit ok, ça va, ce poste-ci appartient déjà à tel. On a vu même aussi dans certaines divisions, les gens, il y a quelqu'un qui est promis, mais on veut mettre maintenant son petit frère, parce qu'il croit que ça c'est son fief, c'est son poste, ça sera maintenant comme une succession.
Oui, vous avez raison, parce que même dans le ministère, les affectations sont faites selon les quotas des partis politiques, parce que tel parti politique a eu autant de députés aux élections, voilà pourquoi il faut avoir autant de membres au sein du gouvernement, et cela dérange vraiment les bons fonctionnements, parce que parfois des gens sont affectés à des postes alors qu'ils n'en ont pas les compétences. Merci beaucoup monsieur Eminent, nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous intervenez. Excellente journée. On retourne ici à Kinshasa pour donner la parole à Omar Kigalo. Bonjour maître, bienvenue dans ces rendez-vous.
Invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup, M. Tati Duverbe, que vous m'adjugez. Madame a tout dit, nous sommes un état de droit et chaque secteur est régi. Et moi, je voudrais seulement rappeler ce que la loi fondamentale dit. L'administration publique, qui suppose également la fonction publique, est censée être neutre, impartiale et compétente. Si je me souviens encore de mes noms de droit administratif que les profs vont devoir m'enseigner en troisième graduat, il a défini la fonction publique comme l'organe central d'un état. Les poumons, je dirais, chargés de réaliser et de concrétiser les décisions politiques. Donc, si l'administration publique d'un État ne marche pas, c'est tout l'État qui est mort. En voici une des causes de nos problèmes. La Belgique, je crois, vers l'année 2009 ou 10, a fonctionné sans gouvernement pendant 9 mois.
Oui.
Vous vous souvenez, je crois, c'est l'administration publique qui a géré l'État.
Oui.
Donc, c'est parmi les problèmes que nous avons aujourd'hui. Au-delà de ce que madame a dit, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'on va dans les bureaux des fonctionnaires, nombreux ne viennent pas. Ils sont couverts par leur chef. Et lors du paiement, il va penser au chef. Deux, les autres, ils viennent signer le matin, c'est la coule douce, et ils viennent le soir pour signer le retour. D'autres monnaient les services publics. Mmh. Aujourd'hui, au Congo, si vous allez peut-être chercher un certificat de nationalité au ministère de la Justice, l'État est là pour rendre des services à la population. Il y a des frais minimes que l'arrêté a prévu. Si vous ne motivez pas ces fonctionnaires, votre document va traîner. Voilà ce que nous constatons.
Et également, il y a des agents qui ont deux, trois numéros matricules.
Je voulais même en finir, vous avez prophétisé. Il y a des gens qui ont trois, quatre matricules. On les connaît, ils sont connus de tous. Alors qu'il y a un service qu'on appelle l'IGAP, Inspection Générale de Mission Publique, qui est censé contrôler. Pour joindre madame, pour, je suis d'accord.
La liaison s'est dégradée avec l'auditeur Omar.
Vous. Elle m'a parlé des documents tantôt. J'ai un ami qui vient de recevoir un document sur le cas d'aptitude physique. sans avoir été chez le médecin. On s'est mis à rire. Comment on peut déclarer quelqu'un apte physiquement sans qu'il passe un test? Le médecin dit non, Zoaïza Makambolika. Voilà un pays. Alors qu'il y a des services qui demandent l'aptitude physique, les défauts de contrôle. Tout ce que nous décrions là, c'est ce que madame a dit. Il faut qu'il y ait un contrôle pour voir si le travail fait c'est conforme à la loi.
Mm.
Nous avons l'IGAP, nous avons l'IGF, nous avons la justice, nous avons le Parlement. Mais pourquoi on ne contrôle pas? Comment on va évaluer si le contrôle n'est pas fait? Voilà pourquoi moi je voudrais conseiller qu'il y ait aussi la formation. Félicitations pour l'ENA. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe déjà? L'ENA a prévu aussi une formation continue pour les fonctionnaires qui travaillent déjà. Parce qu'il y a des gens qui travaillent mal parce qu'ils sont mal formés. La rémunération, si c'est l'une de cause, madame. Quand on dit rémunération au Congo, c'est limite au salaire, alors que la loi est claire. Les soins médicaux, les allocations familiales, le frais des transports, les logements. Comment voulez-vous qu'un fonctionnaire soit performant s'il a 100 000, 500 000 francs le mois? La somme de toutes ces solutions, monsieur Tati, pour moi, fera en sorte qu'on puisse avoir une bonne administration. Mais les tout se limitent, comme madame l'a dit, par la conscience. Je vous donne chez nous, par exemple, j'ai fini par là, ça peut inspirer les services publics. Pour devenir avocat, faut prouver qu'on est licencié en droit. Faut passer un test d'aptitude intellectuelle. Après ce test, il faut faire un stage de 2 ans. Et après les 2 ans, il faut faire un nouveau test. Si vous réussissez pas 2 fois, on vous déclare inapte pour exercer comme avocat.
C'est tout un processus.
Et pour tout un processus, vous faites un examen et c'est 4 correcteurs qui corrigent votre copie. Même si vous prêtez votre premier serment, durant 2 ans, on vous suit. Du point de vue moralité, éthique, compétence. Si vous n'avez pas de compétence, on vous radie du barreau. Si d'autres services de l'État peuvent aussi en prêter, on ferait œuvre utile. Voilà de manière humble ma contribution, monsieur Tati. On doit vraiment faire même 100 émissions sur la moralisation de la fonction publique, car la fonction publique est le cœur de la nation.
Merci beaucoup, Maître Omar, hein, pour tes suggestions. Et nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Monsieur Ernest, comment réagissez-vous aux suggestions de Maître Omar?
Oui, effectivement, Maître Omar a raison. Étant donné que, comme je l'avais dit, tout dépend de tout commence par les partis politiques. Comme je l'ai dit, je l'ai insisté. J'ai insisté que tout commence par les politiciens. C'est les politiciens qui doivent faire respecter. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est eux qui doivent respecter les lois, c'est eux qui doivent faire respecter les normes, c'est eux qui doivent faire respecter les procédures. Et c'est eux qui doivent lutter contre la corruption. Mais, si nous rentrons très, 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 comment est-ce que ces partis fonctionnent? Comment est-ce que ces partis mobilisent les moyens? Ça devient tout un problème. Et c'est ça la base même de tous nos malheurs. Tout ce qu'on est en train de décrire ici, c'est les partis politiques, les hommes politiques. Ils ne sont pas transparents. Ils ne sont pas redevables. Ils ne cotisent, donc, il n'y a pas de cotisent, ils ne sont pas redevables envers leurs membres seulement. As-tu déjà vu un seul parti qui publie son rapport financier?
Non.
Il n'y en a pas.
Non.
Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait des enquêtes au niveau du ministère de l'Intérieur. J'ai demandé à ce qu'on me donne un rapport financier d'un seul parti politique depuis 2006. Jusqu'aujourd'hui,
oui, mais
ça n'existe pas.
Reste à savoir si les animateurs de ces partis politiques connaissent qu'il est important d'établir les rapports annuels, les rapports financiers, les rapports des activités à la fin de chaque année.
Ils sont au courant parce que la loi les oblige. Mais comme la loi n'est pas appliquée, comme les normes ne sont pas appliquées, ils s'en foutent. Un seul secrétaire général qui va demander au parti de PET aujourd'hui de donner son rapport d'activité, ou de publier son rapport financier. Il n'y en a pas. Personne ne va lui donner. D'ailleurs, le secrétaire général risque d'être suspendu parce que c'est l'IDP qui est au pouvoir aujourd'hui. Hier, c'était le PPRD qui pouvait dire à Chadar hier, qui pouvait dire à Chadar hier que le PPRD puisse publier son rapport financier. Personne. Et maintenant, dès que nous avons ce genre de partis qui ne connaissent pas, qui ne forment même pas leurs membres, vous verrez des agents des membres de l'IDP, il veut concourir peut-être aller au ministère de l'aménagement du territoire. Mais donc, tu poses la question, comment l'aménagement du territoire fonctionne, il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Quelqu'un qui concourt pour aller au ministère des Affaires foncières, lorsque tu demandes comment est-ce que ça fonctionne, il ne connaît pas. Donc, ce qui fait que nous avons de grands problèmes parce que les mêmes partis ne forment pas leurs membres.
Et un autre problème.
Et
un autre problème est que chaque ministre qui arrive, il vient avec son équipe et dès qu'il part, il laisse son équipe et on se retrouve avec un nombre pléthorique des agents qui ne foutent rien et c'est.
Vous savez, par exemple, je vous donne un cas. Prenez les infirmiers et les médecins. A-t-il déjà vu un concours où on est en train de recruter les infirmiers et les médecins?
Non.
C'est l'exemple.
Non.
Mais partez maintenant à l'hôpital général de Matete. C'est 400 lits, il y a 4000 médecins. 4000 médecins à l'hôpital de Matete, ici, à Kinshasa. Or, il y a des territoires où il n'y a même pas de médecins. Mm. Nous avons carence de médecins à l'intérieur du pays. Mais on ne recrute. Il y a des médecins qui ont fait 4. Il y a des jeunes gens qui terminent la médecine et ils font 10 ans. Ils n'ont jamais été mécanisés. A-t-il déjà vu en Europe ou dans d'autres pays où il y a des médecins chômeurs?
Non.
Pourquoi? Parce que au niveau politique, on ne veut pas. On veut recruter des médecins qui sont en obédience avec les hommes politiques. C'est ça les grands problèmes que nous avons.
On vous garde en ligne.
Ce sont les politiques. Oui.
On vous garde en ligne.
Ce sont nos politiciens qui sont nos propres malédictions.
Merci beaucoup.
Parce que nous allons commencer à faire pression, à faire pression à ces gens, à ces politiciens, pour qu'ils soient plus transparents, qu'ils soient redevables et qu'ils forment leurs membres. Vous verrez que nous allons commencer à voir à changer, effectivement.
On vous garde en ligne, monsieur Ernest, madame Madeleine, l'auditeur de Bukavu. Il a évoqué un cas précis d'un appel à recrutement au niveau de la DGDA Bukavu. Mais depuis que les dossiers ont été reçus, plus rien. Ils savent pas quels sont les jeunes ou qui a été appelé, qui n'a pas été appelé. Le clientélisme, c'est aussi un problème qui gangrène l'administration publique.
C'est parmi les défis, le clientélisme, l'instrumentalisation, les interférences politiques, c'est parmi les défis. Mais c'est déplorable, hein? Ça c'est déplorable et c'est même grave. On ne voit pas l'ampleur de la destruction du tissu social économique du pays à partir de ces choses-là. Parce que, comme l'a dit, je pense,
Maître Omar,
Les services publics sont c'est la casserole de l'État. Quand ça ne marche pas, c'est que l'État ne marche pas. Donc c'est très grave ce qu'on est en train de vivre, c'est on est en train de percevoir. Moi, la formation est vraiment la base à tous les niveaux. Mais nous reviendrons plus sur les partis politiques. Les partis politiques en soi, ils aspirent au pouvoir. Ils aspirent au pouvoir.
Oui, on arrive au pouvoir pour gérer la nation.
Pour gérer la nation.
Oui.
Mais au départ, ils doivent, eux, être de petits gouvernements dans leur parti politique.
Exactement.
Ils doivent former des sections de mines, sections de femmes, sections de paix, sections...
Selon les ambitions.
Pour que ces gens-là puissent s'exercer, puissent comprendre dès le départ ce qu'il y a dans ce contenu. Pour qu'à la fin, on ne soit pas surpris que quand ils viennent au pouvoir, si... Il y a concours, parce qu'on doit toujours privilégier l'égalité. On donne accès à tout le monde pour postuler. Et que si les gens des partis politiques peuvent postuler et mériter, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait vraiment pas de problème.
Tout à fait.
Mais la démarche déjà d'égalité à ce niveau-là
est biaisée au départ.
Et la démarche des compétences est biaisée davantage. La démarche culturelle de l'éducation... Bon, personne, les gens s'en foutent pas mal. Alors, je ne sais pas quel est l'avenir de notre fonction publique et quel est l'avenir des gens qui continuent à aspirer. Ce n'est pas interdit d'aller gérer. Mais je reviendrai, on va dans la fonction publique, dans les institutions publiques. Pourquoi? Pour servir. Ni plus ni moins, pour servir.
Rendre service à la nation.
Quand on sert, on a droit à un salaire, on a droit à des primes, on a droit à ceci ou à cela. Mais tout ça mis dans une casserole, on a encore beaucoup à faire.
On retourne au standard, s'il vous plaît, madame. Le temps s'égrène vite. Il y a un auditeur qui a mis 5 à 10 minutes pour patienter. On va lui donner la parole. Monsieur Thomas, vous nous appelez depuis la ville de Kisangani. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, monsieur Jody, monsieur Tati, et bonjour aux invités. Comme le temps file rapidement, monsieur Jody, avant d'arriver à la moralisation de la fonction publique, c'est d'abord, avant d'arriver à ça, monsieur Dati, il faut évaluer d'abord qu'est-ce qui est à la base de ça. Parce que ce qui pousse également les agents à arriver à ça, c'est également les conditions de vie dont face également les agents de l'État. Je suis un enfant d'un agent de l'État. Ou par exemple, je parle le cas de la Sokimo, parce que mon père travaillait à la Sokimo, société de kilomètres là à Ntouri. Vous imaginez, ça fait 80, plus de 80 mois qu'un agent n'est pas payé. Et avec tout ça, vous imaginez, ça aura quelle répercussion sur sa vie sociale? Plus de 80 mois que les agents ne sont pas payés. C'est vraiment très catastrophique cet aspect des choses. Je reviens maintenant par rapport à la thématique du jour. Les défis, monsieur Jody Tati, on ne peut pas aller par les dos de la cuillère.
C'est d'abord rapidement, cher Thomas.
La corruption, ça bat un record ici dans ces pays-là. Et cela sera difficile, en tout cas, l'établissement des normes et de l'éthique. Deuxièmement, il y a le manque de transparence également, monsieur Tati. C'est-à-dire la gestion opaque là des ressources et les décisions gouvernementales diminuent quelque part également la confiance du public et favorise la fraude, monsieur Tati. Troisièmement, beaucoup des intervenants ont parlé, je ne peux pas revenir par rapport à la formation, c'est très important également. Également, il y a la culture de l'impunité, monsieur Tati. Ça, c'est ce que le président lui-même avait déjà reconnu, que notre justice est malade. C'est un sérieux problème. La corruption partout dans ces pays-là. Je ne sais pas par rapport à... C'est un sérieux problème également, la faiblesse des institutions judiciaires et la protection des fonctionnaires corrompus. Lorsque vous êtes dans l'Union sacrée, même si vous faites n'importe quoi, vous êtes couvert parce que vous êtes dans l'Union sacrée. Et c'est un sérieux problème dans ce pays-là, la corruption. Mais également, il y a des pressions politiques quelque part. L'interférence là des politiques dans la gestion des affaires publiques, ça complique également la mise en œuvre des politiques démoralisation, monsieur Tati. Lorsque la politique se mêle dans tout, ça sera vraiment impossible la gestion opaque même des fonctionnaires de l'État, monsieur. Parce qu'un agent peut bien travailler, mais il doit avoir des influences vis-à-vis de son parti politique et ça complique les affaires. Mais je vais te parler une question parce que le temps file rapidement.
Mais tu le sais, vous prenez 5-10 minutes en même temps. Allez-y rapidement.
Et par rapport à la corruption, je ne sais pas quelles sont les mesures concrètes qui peuvent être mises en place pour lutter contre la corruption. Est-ce qu'il n'y a pas moi-même appliqué la peine de mort dans ce pays-là? Parce que on voit que la corruption, ça bat record dans ce pays-là. Je ne sais pas, à part, on sanctionne bien sûr, mais les retombées, on ne le sait pas. Je ne sais pas quels peuvent être d'autres mécanismes concrets on peut mettre en place pour lutter contre la corruption dans la fonction publique, monsieur Tati. Je m'arrête là comme l'État fait rapidement.
Merci beaucoup, monsieur Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Ernest Imparero, comment répondez-vous en une minute et en conclusion, que devons-nous retenir dans le cadre de ces rendez-vous qu'on a fait sur la moralisation de la fonction publique ici en RDC?
Effectivement, pour... Quelles sont les solutions? La première solution, c'est que les hommes politiques doivent respecter la loi. Ça, c'est la première chose. La loi, les règles, les procédures, ça doit être respecté. Lorsqu'on respecte, vous verrez qu'on aurait résolu beaucoup de problèmes. La deuxième, effectivement, c'est le manque de volonté politique à lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, effectivement, comme l'auditeur de Kisangani venait de le dire, lorsque c'est quelqu'un qui était du PPRD, ils étaient protégés par l'AMP à ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Les membres qui s'adonnent à la corruption...
Ils sont couverts par la famille politique.
Effectivement. Donc, il faut qu'il y ait une grande... des actions de sensibilisation envers les partis politiques pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas protéger les hommes qui volent, les hommes qui détournent, les hommes qui s'adonnent à la corruption sexuelle, les hommes qui s'adonnent, qui ne sont pas éthiques. On ne peut pas les protéger.
Merci beaucoup.
Si vous faites partir,
merci beaucoup.
Un million de personnes, ouais. Il y aura toujours des gens qui pourront être travailler.
Exactement. On les considère comme votre dernier mot. Merci beaucoup, M. Ernest Imparero. Nous rappelons que vous êtes le président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. En quelques mots, madame, un message en guise de conclusion.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de monsieur de Kisangani.
Thomas.
Par rapport à la confiance qui s'égrène entre l'État et le citoyen. Cette confiance brisée est aussi à l'origine de beaucoup de choses.
En donc conclusion, madame.
En conclusion, je pense que nous devons lutter globalement contre tous les maux que nous avons dit, mais particulièrement contre la corruption.
Oh, merci beaucoup.
Il y a une loi d'abord qui doit être une loi sur la corruption qui doit être promulguée. Il faut qu'on pense à ça et la sanction serait un modèle. Si on ne sanctionne pas, on ne sort pas du tout.
Merci beaucoup, madame Madeleine Andeka. Nous rappelons que vous êtes activiste des droits des femmes. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous. Et c'est par ici que nous clôturons ce magazine que j'ai eu l'immense plaisir de les présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutokia a été à la réalisation, Debs Vita à la prise de son et Shadrach Mboutamboutou s'est occupé de l'édition multimédia. Excellente journée. À demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service.